Donc je passe la parole à Christophe Midler.
Merci Michel. Ma contribution à ce débat va être très complémentaire à celle de Philippe Hirschman, puisque lui, il a cadré la question à partir de données techniques sur le domaine. Et moi, je ne vais absolument pas rentrer sur une discussion sur la validité ou la sensibilité des hypothèses et des chiffrages énoncés. Ma proposition sur laquelle je vais mettre l'accent, c'est que l'essor du véhicule électrique ne va probablement pas dépendre d'une rupture technologique nouvelle ou d'une vitesse nouvelle de changement technologique, mais de la manière de piloter la création et la répartition de valeur dans un domaine technologique qui est finalement bien balisé. Alors, effectivement, la mobilité électrique, c'est loin d'être une nouvelle technologie. Les premières voitures électriques, comme on l'a dit, datent du 19e siècle, à jamais comptantes, c'est bien connu. Et ce qui s'est passé finalement dans le XXe siècle, c'est ce que Schumpeter et Utterbach ont bien décrit. Après une phase initiale de foisonnement, on a assisté à l'affirmation d'un dominant design qui est celui du moteur à explosion à pétrole. Un dominant design qui est périodiquement contesté lors des crises spéculatives sur le prix du pétrole, mais ce dominant design n'a jamais été détrôné et donc on peut poser la question pourquoi la bulle actuelle serait différente des précédentes. Alors, pour répondre à cette question, je crois qu'il faut revenir à la définition complète de ce qu'est un dominant design. C'est-à-dire qu'on met souvent l'accent sur les trajectoires technologiques, sur les rendements industriels des effets d'échelle, mais il y a aussi d'autres caractéristiques dont on parle moins souvent et qui sont très importantes pour expliquer la stabilité des dominants design. Il y a d'abord la stabilisation des usages des produits. L'exemple emblématique, c'est le clavier QWERTY. Ce n'est pas pour des raisons techniques qu'on ne peut pas changer un clavier QWERTY dans un clavier plus commode, c'est parce qu'il y a une habitude, une inertie des usages des utilisateurs de machines à écrire qui fait qu'on ne change pas. Deuxièmement, la stabilité des structures de valeur. Et on va continuer à comparer la performance des voitures sur, par exemple, l'autonomie au-delà de 500 km, même si personne ou très peu de monde se servent de ça, mais simplement parce que c'est dans le dominant design de la voiture, il y a des réservoirs qui font à peu près ça, donc on se compare là-dessus. Troisième facteur du dominant design, le fait que les produits sont encastrés dans des environnements, environnements physiques, environnements sociaux, environnements économiques, des systèmes de prix qui permettent la coordination des acteurs sur ces dominant design. Donc pour ébranler un dominant design comme le véhicule thermique, il faut beaucoup plus qu'agir sur la technologie. Il faut repenser, être capable d'agir sur les différents niveaux par le processus de conception, sur l'apprentissage de nouveaux usages, sur les environnements des produits, sur les business models, etc. Et ce que je vais essayer de montrer dans la suite, c'est justement qu'on assiste aujourd'hui à une rupture dans la manière de piloter la conception des projets de véhicules électriques, et c'est ça, en particulier chez Renault, et c'est ça qui risque de, je dirais, sauver le véhicule électrique et de faire des choses différentes par rapport à ce qu'on a vu dans les années, notamment 90. Alors, comment on prenait le problème auparavant? J'ai figuré sur ce schéma la matrice classique de l'innovation dans le secteur automobile, qui est une matrice qui s'est structurée à la fin des années 80 et dans les années 90, et qu'on peut, disons, caricaturer en un découplage entre deux phases, une phase amont, où on explore, on mature des innovations, et une phase aval de développement produit, centrée sur la qualité, le coût et le délai du lancement de la voiture. Si on applique, et c'est ce qui s'est passé dans les années 90, cette matrice d'innovation aux véhicules électriques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe deux démarches. Première démarche, la démarche du concept car, qui est la réalisation d'un objet technique unique qui tourne dans les bureaux d'études. Et depuis 30 ans, il y a des dizaines de concept cars chez tous les fournisseurs, chez tous les constructeurs d'ailleurs aussi, chez les fournisseurs. Et ce n'est pas pour autant que ça a débouché dans des marchés de masse. Alors, cette démarche d'apprentissage, elle est pertinente pour évaluer la faisabilité d'une technologie ponctuelle, pour évaluer, je dirais, sa maturation, mais elle est totalement inefficace pour les questions d'industrialisation, sur le coût, et encore moins pour tester l'usage de ces technologies en situation et par des consommateurs réels, en ville ou dans des situations réelles. La deuxième démarche d'apprentissage de la mobilité électrique, c'est le véhicule dérivé, le véhicule électrifié. On prend une voiture de série, on fait du tuning de la voiture thermique en mettant un moteur électrique. Alors ce mode d'apprentissage a permis d'aller jusqu'au marché réel, mais dans de très mauvaises conditions en comparaison de la mobilité, je dirais, thermique. En effet, ce qu'on retient de cette comparaison qui se situe sur le terrain de la voiture classique, c'est que le véhicule électrique bricolé est plus cher, moins fiable, moins performant que le véhicule d'origine. Et c'est ce qui est tout à fait normal, puisque le véhicule a été optimisé sur la mobilité thermique. Ce n'est pas très étonnant qu'ils gagnent la compétition. On voit donc que ces processus de conception traditionnelle n'ont aucune chance de bouger, de sortir du dominant design. Pour bouger du dominant design, je pense qu'il y a quatre caractéristiques que doit réunir un processus de conception. La première caractéristique, c'est une capacité à concevoir un produit électrique intègre. Intègre, ça veut dire qu'il est optimisé autour de la motricité électrique. Hein, c'est-à-dire qu'il valorise tous ses avantages, qu'il tient compte de ses contraintes spécifiques. Deuxième caractéristique, la capacité à élaborer, et j'y reviendrai évidemment, des offres de services qui comportent et élargissent l'offre produit. C'est-à-dire ne pas penser uniquement objet, mais service autour de l'objet et avec l'objet. Troisième caractéristique, la capacité du système de conception à définir des modèles économiques nouveaux, impliquant les acteurs clés qui sont autour du mobilité électrique et que tu as cité. Dernier point, la capacité à piloter des régimes transitoires d'apprentissage et de création de valeurs nouvelles. Je vais revenir maintenant sur ces quatre caractéristiques pour montrer les différences entre ce qui se passe aujourd'hui dans les projets de véhicules électriques et ce qui se passait dans les années 90. Première condition de réussite, j'ai nommé la capacité à concevoir un produit intègre autour de la mobilité électrique. Alors, je prendrai l'exemple d'un de mes étudiants d'il y a 2 ans qui avait fait un travail justement sur les moteurs auxiliaires, le lave-vitre électrique, voilà. Ça, c'est un domaine. Le rendement thermique, le rendement énergétique du moteur auxiliaire, c'est quelque chose qui n'intéresse absolument pas les gens de bureau d'études il y a 5 ans, parce que ça n'avait aucune valeur. Bon. Aujourd'hui, eh bien, pour la voiture électrique, ça devient très porteur de valeur parce que gagner en rendement, c'est augmenter l'autonomie, donc ça a de la valeur. Donc on voit que c'est l'ensemble des ingénieries, et pas uniquement le moteur, qui doit être revu pour optimiser et aboutir à un produit intègre. Alors un bon exemple de cette recherche du produit intègre, c'est l'exemple de la Toyota Prius. Indépendamment de l'opinion qu'on peut avoir sur le choix du full hybride, on constate que cette entreprise a réussi à imposer un concept différencié avec un style, une architecture originale, un travail de fond sur l'ensemble des composants, un mode de commercialisation spécifique. Et pour cela, elle a adopté une stratégie de conception tout à fait aussi nouvelle et originale, qui a été de réinventer l'entreprise sur un projet pilote, qui a été justement le projet Prius, et ensuite d'avoir une stratégie de lignée, c'est-à-dire qu'à partir de ce qui s'est inventé sur la première génération, c'est diffusé de nouvelles compétences dans les métiers et ensuite qui a rebondi sur les autres lignes. Le projet Renault véhicule électrique, dont on va parler plus précisément après, constitue à mon sens une nouvelle étape dans cette organisation d'un apprentissage de produits électriques intègres, hein, où ici le périmètre n'est pas un seul projet, mais un programme multiprojet. Cela permet d'expérimenter en même temps plusieurs objets de mobilité et étager l'apprentissage dans le temps afin de coordonner les générations de technologies avec des générations de produits successifs, ce qui fait sauter des marches moins grandes en une fois. Si on confronte le processus de conception par rapport à ce que je décrivais tout à l'heure, eh bien, on voit qu'il y a une transformation profonde de ce processus de conception. On voit ici que les compétences des métiers sur les nouveaux domaines de la mobilité électrique, que ce soit les composants technologiques électriques, les batteries, le développement de nouveaux services, eh bien, ils se construisent en parallèle, je dirais, en concurrence, par rapport à la mise en marché de nouveaux produits. Et les développements de produits, eh bien, ce ne sont plus le réceptacle de connaissances qu'on a déjà inventées ou développées en amont. Ces projets de développement sont à la fois les impulseurs du développement des métiers et participent à l'apprentissage, en particulier sur les usages. Donc, c'est une transformation très profonde de la logique de conception automobile. Deuxième caractéristique, concevoir un produit électrique intègre est nécessaire, mais pas suffisant. L'un des grands tournants contemporains de l'automobile est de concevoir des services qui confortent et valorisent les produits automobiles. Et c'est particulièrement vrai pour le véhicule électrique, et ce pour 2 raisons. La première, et Philippe l'a très bien montré, c'est que les services peuvent constituer une parade aux difficultés intrinsèques à l'objet électrique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement résoudre le problème si on reste sur une comparaison qui se limite au périmètre du produit. Par contre, si on élargit l'offre produit-service, eh bien là, on peut trouver des parades tout à fait efficaces aux critiques que tu faisais tout à l'heure. Par exemple, on peut avoir une assistance à l'exploitation qui rassurera les clients
qui achète effectivement un produit innovant, hein, mais s'il y a une assistance à l'exploitation bien foutue, eh bien, cette peur de la nouveauté, de la non-fiabilité sera, je dirais, minimisée. Deuxièmement, la limite physique de l'autonomie dont tout le monde parle, eh bien, il y a des solutions en termes de services pour la contrecarrer. On a parlé des quick drop, mais on peut aussi parler tout simplement de prêter une voiture quand on veut faire un trajet plus long. Et puis troisièmement, les business models pour le client, c'est-à-dire que le client, effectivement, quand il achète une voiture, il voit bien le business model. Il y a le prix d'achat, il y a l'essence, il y a la revente, et il faut fabriquer un système de financement qui rassure sur le plan économique. Deuxième aspect, le fait que, indépendamment de la voiture électrique, se développent des habitudes de mobilité qui, je dirais, changent, c'est-à-dire avec des usages plus centrés sur justement des services d'autopartage, d'usage de taxi, de mobilité multimodale. Et dans ce cadre-là, évidemment, le véhicule électrique peut avoir une place tout à fait prépondérante. Comment ça se traduit concrètement la prise en compte du service dans les processus de conception? Eh bien, moi, je vois deux évolutions importantes. Premièrement, la création de directions de programme de nouveaux services dans les entreprises automobiles. C'est quelque chose que, en tant que chercheur, on avait proposé il y a maintenant à peu près 10 ans à un autre constructeur français qui s'intéressait aussi aux véhicules électriques à l'époque. Et aujourd'hui, la marche a été franchie, chez les deux constructeurs d'ailleurs. Et donc, je pense que ça va impulser des choses de manière tout à fait importante. La deuxième chose, évidemment, tout à fait importante, c'est de penser ces projets comme des projets ouverts aux acteurs clés des chaînes de valeur de services, à la fois des opérateurs de services comme Betterplace, je pense que Patrick va revenir là-dessus, des pouvoirs publics locaux qui ont des rôles importants dans les services de mobilité et des opérateurs de transport. Troisième aspect tout aussi important, la capacité à transformer les business models. Pourquoi ? Bon, pourquoi là ? C'est qu'on a aujourd'hui, premièrement, des valeurs qui ne sont pas monétarisées. Hein, si on prend ce dont on parlait tout à l'heure, le zéro émission locale et le fait que la ville est moins bruyante, le business model classique de l'automobile où le conducteur acheteur est le point clé, je dirais, ce n'est pas lui qui valorise ça, c'est plutôt son environnement, c'est plutôt l'urbain. Donc, créer de la valeur, ce n'est pas forcément lui qui va payer. Deuxième aspect, les questions d'infrastructure, c'est des questions qui doivent évidemment se répartir dans un modèle économique où on couple le modèle économique du constructeur, le modèle économique de l'énergéticien et le modèle économique des pouvoirs publics. Comment concrètement, eh bien, on voit ces couplages compliqués s'opérer et se travailler dans les nouveaux projets véhicules électriques, eh bien, on voit l'apparition de directions de professionnalisme du business développement qui justement s'attaquent à ces choses-là, et on voit les acteurs publics arriver comme des acteurs légitimes et à part entière dans les systèmes clients, hein, à la fois au niveau national et au niveau local. Bon, là, j'ai cité une expérience à La Réunion, mais il y en a plein d'autres. Dernier point que j'aborderai ici, c'est la question de la transition entre un marché où le véhicule électrique est inexistant, ou quasi inexistant, et puis un marché de masse. L'automobile n'a pas été confronté à cette question de la croissance d'un marché à partir de rien depuis un siècle. Hein. Contrairement à d'autres secteurs, comme les télécoms ou l'électronique grand public. Et il y a une source d'inspiration à exploiter, hein, sur des modes de commercialisation qui permettent justement de gérer ces dynamiques de marché. Alors le premier enseignement, je pense important, c'est que cette transition n'est absolument pas continue. Elle passe par des étapes intermédiaires très différentes qui, si elles sont franchies avec succès, mènent à l'étape suivante. Le deuxième enseignement, c'est que les acteurs impliqués à chaque étape sont très différents et donc vont justifier des modes de commercialisation eux-mêmes très différents. Il y a aujourd'hui des petites tribus de fanats de véhicules électriques, ça existe, ils en tournent, etc. Hein. Mais si on veut vendre des véhicules électriques à des taxis, à des compagnies de taxis, il faut s'y prendre évidemment complètement différemment. Hein. Troisième chose importante, c'est que ces étapes intermédiaires jouent deux rôles clés. D'abord, je dirais du business, enfin trois rôles clés. Ils rapportent de l'argent, mais aussi, ils permettent d'apprendre. Et deuxièmement, ils permettent d'avoir un rôle de prescription pour les clients qui sont plus frileux que les étapes intermédiaires. Et donc, en termes d'impact sur les modes de conception, il y a de nouvelles approches marketing à inventer, à mettre en place, justement pour gérer ces étapes intermédiaires, ces expériences, et aussi de nouveaux outils décisionnels, hein, pour bien évaluer les enjeux économiques de l'apprentissage et de la prescription dans ces étapes intermédiaires. J'en arrive à ma conclusion. En conclusion, Je dirais que si le véhicule a de bonnes chances de se développer dans les années qui viennent, ce n'est pas du fait des progrès de la technologie. Non, ça, j'y crois pas beaucoup. Mais c'est du fait des progrès des sciences de gestion qui font qu'on prend aujourd'hui le problème différemment d'hier. Avec une ambition stratégique qui est à la mesure des ruptures nécessaires, oui, en prenant à bras-le-corps les remises en cause nécessaires du business model, alors que c'est un sujet qui était complètement sous-évalué auparavant, en adoptant des processus d'ingénierie concourante et d'exploration concourante, à la fois des métiers et des développements produits, en ouvrant les processus de conception bien au-delà des écosystèmes traditionnels de coopération de l'automobile, en pilotant des processus d'apprentissage des usagers, processus progressif, et finalement, un petit plaidoyer pour le monde académique, en ouvrant ce vaste chantier expérimental à des coopérations entre le monde de l'industrie et le monde académique. Et je vous laisse saluer à cette occasion-là l'initiative de l'Institut de la mobilité durable, où il y a Renault et ParisTech qui se sont mis ensemble pour explorer ces sujets. Merci.